Chapitre 4. Ah, qu'on est bien chez Anzouli. Pierre fut très étonné du ton que prenait le monologue de Doxy. Il ne fallait pas venir ici. Il avait fini de boire son café, il se dirigeait vers la chaise où il avait posé sa valise pour y prendre son tube de savon à barbe, son rasoir Gillette, et il devinait que la petite bonne restait immobile, les deux mains appuyées sur la table, en proie à quelque émotion, comme l'indiquait sa respiration un peu forte. « Faut-il la faire parler ?» se demandait Pierre. « Elle en dira peut-être plus qu'il ne faudrait, puisqu'elle craint d'être battue par son Turc. » Il se hasarda. « Vous croyez que j'aurais trouvé une chambre en ville, mademoiselle Doxy ?»«
Ça, c'est sûr, chez la sœur Louise. Elle tient une chambre du gouvernement pour les permissionnaires. »
« Que voulez-vous? Popol m'a amené ici. »
« Oui, parce que le patron lui donne 20 sous chaque fois qu'il amène un homme. »«
Qu'est-ce que vous feriez à ma place, mademoiselle Doxy ?»«
Je me cavalerais, c'est sûr et certain. »«
C'est qu'il ne m'est pas très facile de me cavaler, ma pauvre petite. » »«
Non, mais une supposition. Vous verriez des choses. Par exemple, quelqu'un qui apporte un sac de gros sous, il ne faudrait rien dire. »
« Je ne le verrai pas, ça, je vous en donne ma parole. »
« Tout de même, si vous entendiez parler, des fois... »«
Oui, je comprends, » dit Pierre. « Bon, laissez-moi réfléchir un peu. Revenez dans une demi-heure, si vous pouvez, pour mettre le lavabo en ordre. J'aurai fini ma toilette. »
Tout en se rasant, Pierre songeait aux mots de Popol qui avait parlé de bricote, c'est-à-dire de contrebande, et comme il savait que les départements frontières étaient en ce moment drainés de leurs sous de cuivre, lesquels, par des chemins mystérieux et des territoires neutres, prenaient la direction de l'Allemagne, il n'avait pas de peine à en déduire que le Turc français Anzouli s'adonnait à un trafic profitable autant que dangereux.
« Je quitterai la place dès que je le pourrai, » se dit-il. Car il ne me paraît pas qu'ici, le détective œil de verre, même groupé avec Eudoxie, puisse faire quoi que ce soit d'utile. Il finissait de se raser quand on frappa, et cette fois, c'était Anzouli.
« Vous allez vous ennuyer, monsieur, là, tout seul. Venez donc un peu dans ma boutique. On causera. »«
Volontiers, » dit Pierre.
Son hôte lui fit traverser un petit couloir d'allées et voûtées qui résonnait, ouvrit une porte, d'où s'exhala aussitôt une odeur compliquée, poivrée, d'essences orientales, de bois de santal, de camphre, d'eau de rose.
« Qu'est-ce que vous vendez dans votre boutique ?» demanda Pierre.
« De tout, monsieur, de tout. Des chapelets de Jérusalem, du nougat, des tapis, des bijoux de turquoise, des petits pistolets très jolis, damasquinés, tout chargés. Gare !»
Il y eut un silence assez drôle, puis Anzouli poussa un éclat de rire, prit Pierre par l'épaule, le secoua.
« Ça y est, cette fois, je sais, je suis sûr. »«
De quoi ?» demanda Pierre très ennuyé de ses familiarités.
« Que vous n'y voyez goutte. Je vous ai couché en joue, là, à deux pas, avec un pistolet, et vous pouviez voir que j'avais mon doigt sur la détente. Vous n'avez pas plus bronché qu'un homme en pierre. » Vous comprenez, c'est très facile de dire qu'on est aveugle, mais c'est plus difficile de ne pas bouger un cil quand un pistolet vous regarde en pleine figure.
Vous prenez bien des précautions, monsieur Anzouli, fit Pierre sans trop appuyer.
Au même instant, la petite sonnette stridente de la porte grinça, une cliente entrée, elle demanda un petit paquet de nougat, et Pierre, attentif, entendit parfaitement qu'elle payait en gros sous lourd, posés l'un après l'autre sur le comptoir. Une autre cliente arrivait.
« On m'a dit que vous aviez des petits miroirs à cadre sculpté, très bon marché. J'en prendrai un.
35 sous, ce n'est vraiment pas cher.
Voilà un billet de 5 francs. Donnez-moi la monnaie. »«
Ah, madame, désolée, vous savez que de la monnaie en ce moment, il n'y en a pas, même à Paris. Payez-moi en sous ou bien laissez le miroir. »
« Du papier, mais madame, j'en ai trop, je ne sais plus qu'en faire. »«
Vous avez de la veine, » dit la cliente. « Enfin, s'il faut en passer par là, tenez, voilà un franc et le reste en sous. »«
Allons, allons, ma petite dame, soyez gentille, donnez-moi tout en sous. »«
Vous savez, monsieur Zanzouli, à la fin des fins, on va croire que vous faites le trafic des sous, fit la cliente d'un ton défiant.
Si on peut dire.
Mais je n'aime pas les pièces blanches, il y en a trop de fausses qui courent. Avec les sous, on est tranquille. C'est du métal honnête, au moins.
Pierre était fixé. Dans cette petite boutique, où l'on vendait un tas de bibelots sans doute à perte, les gros sous de la région venaient s'entasser. Il aurait été intéressant de savoir comment ils s'envolaient ensuite par-dessus la frontière. À midi, Pierre déjeuna avec son hôte, qui fut rempli d'attention, et le questionna copieusement sur son opinion militaire, sur sa campagne. Et puis, avec l'air de n'y pas toucher, sur les effets du bombardement dans les divers quartiers de Paris.
« On dit que ça tombe toujours à côté. Est-ce vrai ?»«
Ça tombe toujours sur quelque chose. » »«
Ça fait des trous sur le boulevard, dans le métro. On dit que le Louvre est touché. Vous devez le savoir. »
« Je ne me suis pas rendu compte, » répondit Pierre froidement.
« Non, mais les journaux, le matin, doivent parler des dégâts.
Ils sont censurés.
« Je suis français, » proclama cet excellent Turc. « Alors, vous pensez si je fais des vœux pour la France ?»«
Je m'en aperçois, monsieur Zanzouli. Mais savez-vous que votre Doxie est une excellente petite cuisinière ?»«
Le potage était velouté. » Et les frites sont parfaites, comme la côtelette d'ailleurs.
Eudoxie, en effet, elle ne fricote pas trop mal. C'est bien pour ça que je la garde. Mais elle est laide, laide et mal tournée. Si vous pouviez la voir, on n'en voudrait pas pour ouvrir la porte dans une maison bourgeoise. Elle a des pieds comme des gondoles et des yeux bigles. Comme vous dites en France, des yeux qui regardent en champagne si la Bourgogne brûle. « Ces sacrés Français, ils ont de l'esprit, on ne peut pas leur ôter ça. »
L'après-midi que Pierre passa assis sur un banc devant la maison lui parut interminable. Il n'avait qu'une petite provision de cigarettes, il les ménageait car le tabac était presque introuvable. Zanzouli lui avait bien soufflé à l'oreille que s'il aimait les cigarettes turques, on pourrait...
Mais oui, chacun en a une petite réserve pour son usage. Des cigarettes très fines à 20 sous l'une.
Trop cher ?
Quand j'aurai fini les miennes, nous verrons, dit Pierre.
Il pensait, comment faire pour partir d'ici dès demain ? Si j'en apprends trop long sur le trafic des sous et du tabac, je serai obligé d'en informer la police, ça me fera des histoires, ça pourrait même m'empêcher de partir en Suisse avec le prochain train.
La boutique de Zanzouli était très achalandée, c'était un va-et-vient perpétuel car on y trouvait un tas de bibelots, de parfums, de sucreries, à des prix surprenants de bon marché. Eudoxie était allée en ville, Pierre ne l'entendit pas jusqu'à l'heure du dîner, 6 heures. Et le dîner fut excellent, mais la conversation de Zanzouli énervait Pierre. Toujours des questions, des questions. S'il savait dans quel secteur se trouvait maintenant son vieux régiment et ce qu'il pensait de Joffre et de son mot fameux « je les grignote » et si c'était vrai qu'à Paris, on en avait bientôt assez de la guerre.
« Si tu crois que je vais te renseigner, mon vieux, » pensait Pierre.
Aussitôt le repas fini, il retourna s'asseoir devant la maison. Il eut un visiteur, Popol, qui venait pour entendre sonner la montre, qui demanda à la faire sonner lui-même et qui s'en alla, son caprice satisfait. Pierre, sentant un cafard très noir le gagner, essaya de retenir le gamin pour causer un moment. Mais Zanzouli lui-même intervint, chassa Popol et, à la même minute, quelqu'un s'approchant du seuil pour entrer dans la maison, heurta Pierre avec un sac qui sonna.
« Ah, pardon, monsieur, je ne vous avais pas vu !» fit une voix d'homme à l'accent campagnard.
« Il paraît donc que la nuit est tombée, » songea Pierre. « Je vais me coucher. Ce sera tout aussi bien que d'assister au défilé des sacs de sous. » Il se dirigea vers sa chambre. Eudoxie avait fait la couverture et tout préparé. Pierre s'assura que la fenêtre était ouverte, les volets mis à l'avant-dernier cran laissaient entrer de l'air sans que l'ouverture fût assez grande pour qu'un chat, par exemple, pût entrer dans la chambre. Ce qui l'amusa fut de découvrir que Doxie avait mis sur la petite table une bougie et des allumettes.
« Bonne Doxie, se dit-il, Lucette non plus ne pouvait pas supporter que je sois sans lumière dans ma chambre.
à être avec moi une minute dans le noir, elle comprenait trop. Il se coucha, après avoir soigneusement remonté sa montre qu'il posa sur la petite table. Il s'endormit assez lourdement. Sa nuit précédente en wagon lui avait laissé un arriéré de sommeil. Il rêva qu'un animal était entré par la fenêtre, frôlait son lit, mais il ne se réveilla pas tout à fait. Il fallut la voix de Doxy pour le tirer de sa torpeur. « Café au lait, monsieur, 8 heures !»« 8 heures ? J'en ai fait un somme, » dit Pierre en s'asseyant sur son lit. « Comment êtes-vous entrée, Eudoxie ? J'avais fermé ma porte à clé hier au soir. »« Il y a une autre porte au fond, monsieur, qui donne sur ma cuisine. C'est commode pour apporter le café au lait. » Pierre étendit la main vers la petite table pour retirer sa montre et faire de la place au bol de café. « Eudoxie, où est ma montre ?» s'exclama-t-il, ne la trouvant pas sous ses doigts. « Votre montre ? Ah bien, je ne sais pas, moi. Sous votre oreiller ? Non. Sur l'autre table ? Non. Dans votre gousset ? Prenez toujours votre café pendant que je cherche. » Elle mit le plateau à la portée et s'affaira à droite, à gauche. « Le volet est-il fermé ?» demanda Pierre. « Je l'avais mise à l'avant-dernier cran pour avoir de l'air. » « Le volet de gauche est grand ouvert, » dit Eudoxie. « On est entré, on m'a volé ma montre, » s'écria Pierre très agité. « Ôtez ce plateau, je vais faire une maladresse. Filez, ma fille, laissez-moi m'habiller. Dites à votre patron que je veux le voir. » Une exaspération contre sa cécité lui bouillonnait dans la tête. « Sa montre, comment se passerait-il de sa montre pendant les 5-6 jours mortels qu'il faudrait passer ici ?» Zanzouli était sorti, il ne parut qu'au bout d'un quart d'heure, verbeux, débordant de sympathie. « Ce sera Popole, déclara-t-il, le mauvais singe. Vous dites qu'on a ouvert votre volet ? Ce n'est pas bien difficile. Avec une tige de fer ou n'importe quoi, on pouvait soulever ce crochet. » « J'irai en ville immédiatement déposer une plainte, » dit Pierre. « Bonne idée, Eudoxie a son marché à faire, elle vous accompagnera. » Quand Eudoxie comprit l'honneur et la responsabilité qui allaient lui échoir, de guider un glorieux décoré à travers la ville, on put croire qu'elle perdait un peu la tête. « Si au moins j'avais mis ma jupe des dimanches, vous aurez honte de moi, faites comme je suis. Qu'est-ce que les gens vont penser de vous voir avec la zigzag ?» Mais à peine fut-on en route qu'elle retrouva ses esprits et devint subitement très sensée, très avisée. « Devant le patron, je fais la bête, ça vaut mieux, mais j'ai plus d'esprit qu'il ne croit. Votre montre, je vous la retrouverai, allez, c'est pas Popole qui l'a. »